بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre ces drous de Riyad al-Salihin. Et nous sommes toujours dans le hadith de Jibril. On peut se demander pourquoi consacrer tout ce temps, autant de séances, autant de drous, autant d'assemblées, à voir et revoir en détail les différents points, les différentes thématiques évoquées dans le hadith de Jibril. Parce que ce hadith est reconnu comme étant un des hadiths de base dans le iman, où l'ange Jibril alayhi salam vient voir les sahaba en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville sainte de Madina. C'est-à-dire, il y a des sahaba qui ont déjà, mashallah, 13 années de vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca et plusieurs années avec lui à Madina al-Nabawiya. Et là, l'ange Jibril va voir des gens d'un tel niveau spirituel, un tel niveau de science religieuse, pour les rappeler des choses de base, que être musulman, c'est croire en Allah. Être musulman, c'est croire aux anges. Être musulman, c'est croire aux livres, c'est croire aux prophètes, c'est croire au jugement dernier, c'est croire au destin. Arkan al-Iman, les branches de la foi. L'ange Jibril, alayhi salam, ne les a pas, excusez-moi l'expression, embarqués dans un discours spirituel extraordinaire. Un discours avec des termes difficilement accessibles, un discours où il y a un niveau de spiritualité difficilement compréhensible. Non, ce sont les choses de base. Et on a dit que, en parallèle avec un autre hadith, c'est pas celui-là, un hadith Qudsi, hadith dans lequel Allah Azza wa Jal s'adresse aux hommes par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que, en ce sens, que le serviteur, la meilleure façon pour qu'un serviteur se rapproche d'Allah, c'est par le biais des actions qu'Allah a rendues obligatoires. Par le biais des actions qu'Allah a rendues obligatoires, c'est la meilleure façon pour nous de nous rapprocher d'Allah. Par nos salats, par le ramadan, par la zakat, par le hajj, c'est-à-dire par les actions qu'on doit faire de façon obligatoire, les arkan al-islam. Et là, c'est arkan al-iman, les branches de la foi. Ce qui montre également ce hadith qui est un hadith de base, hadith Jibril, et le hadith Qudsi également est un hadith d'une grande importance. Les savants disent, cela prouve la simplicité de l'islam. Cette religion, ce din, est d'une grande facilité. Il est accessible. Et wallahi, celui qui étudie hadith Jibril, qu'on essaie mashallah, de décortiquer, hein, semaine après semaine, celui qui le comprend à fond, il devient le meilleur des hommes. Il devient le plus pieux. Il n'a plus besoin d'écouter des discours ou des rappels. Celui qui a compris l'intégralité du hadith Jibril et qui a compris les maqasid, l'objectif, la hikma, la sagesse qu'il y a à travers chaque croyance, chaque branche de la foi, cette personne devient l'homme avec le iman le plus kamil. Et quand il étudie maintenant l'autre partie qui parle des arkanul islam, des piliers de l'islam, c'est-à-dire les cinq piliers qu'on connaît, et qu'il comprend et qu'il les met en pratique, il devient le plus grand des adorateurs. D'un côté, avec arkan al-iman, les branches de la foi, les six branches de la foi, celui qui l'étudie bien comme il le faut et qui comprend quel est le sens profond et quel est l'objectif à atteindre à travers chaque branche de la foi, il devient l'homme avec la foi la plus complète. Et quand il voit arkan al-islam, les cinq piliers de l'islam, et qu'il les étudie, il comprend le maqsad, l'objectif qu'il y a à travers chaque pilier, il devient le plus grand abid, parce qu'il ne pourra plus jamais s'en défaire. Il aura un tel amour pour la salah, un tel amour pour le jeûne, un tel amour pour la zakat, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça, cette partie-là, on ne l'a même pas encore abordée. Il deviendra le meilleur des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Toujours revenir aux bases. Il y a des fois où Shaitan nous induit en erreur par le biais des péchés. Mais il y a des fois où il nous fait faire des bonnes actions, mais il nous envoie loin là-bas. Allez là-bas, fais bonne action, loin là-bas. et on va faire des choses, on ne va pas dire des détails, il n'y a pas de détails dans la religion, mais parfois des actions qui ne sont pas prioritaires et on finit par négliger la base. Si je veux faire quelque chose qui n'est pas obligatoire, alors que ma femme à la maison, le Allah, que je suis à la masjid, elle est en train de regarder je ne sais pas quoi, j'allais dire à moi, gloire et beauté, mais ça n'existe plus, hein. Mes références, ça date de 10-15 ans, regarde je ne sais pas quel feuilleton brésilien, quel je ne sais pas quoi, et que moi quand j'arrive à la maison, après une heure de temps de programme, alhamdoulilah, ma foi, je sens que j'ai appris des choses, je suis content, j'ai l'intention de faire qiyam ul-layl tahajjud demain, j'ai l'intention de jeûner jeudi, j'ai l'intention, et que quand j'arrive à la maison, ah, madame dort, on fait doucement. Madame, elle a regardé les feuilletons, la télé, je sais pas, regardé Danse avec les stars, avec les loups, je sais pas quelle qualité de créature, jusqu'à 23 heures, et elle s'est couchée, elle a pas fait salat al-isha. Khassara, j'ai tout perdu. Je suis le plus imbécile, excusez-moi. Parce que j'ai fait ce qui n'était pas obligatoire, alhamdulillah, une assemblée religieuse, mais c'était pas la priorité. Priorité, c'était de faire en sorte que, à la maison, madame et enfant, ils font la salah. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Ça, c'est des hadiths, des versets de base. Faites la salah et faites en sorte que tout le monde fait chez vous. En ce sens, protégez-vous et protégez votre famille du feu. An-nar. Ça, c'est les priorités. Après le salatul maghrib, je discutais avec une personne. Alors, si la personne écoute le programme, pas d'ici, hein, se reconnaîtra, mais il n'y a rien de mal. Personne qui a connu des moments difficiles dans le couple, où c'était parfois prêt à éclater. Des moments très durs, maladies, d'autres qui étaient plein de problèmes, hein, des épreuves de la part d'Allah Azza wa Jal. Je retrouve la personne là souriant, grossit un petit peu. Elle dit, ah, ça va mieux. Bon, c'est pas parce qu'on grossit, on est mieux aussi, hein. Il y a des gens qui grossissent par stress. Donc, ça, c'est pas une règle générale. Bref. Personne elle est bien, souriant, dit ça va bien, elle dit oui. Après j'ai dit, ben, elle dit voilà, personne t'es content, j'ai changé de voiture et tout. Elle dit c'est bien. Elle dit comment t'es ça là? C'est bien changer de voiture, notamment son jante et tout. Je connais tout ça, mais khalas, on a écouté. Après j'ai dit, ben là, ça là, comment il est? Parce que il y a des fois, il y a eu des petits manquements. Mais dit que maintenant c'est bien, alhamdulillah, je fais mes 5 ça là. Elle dit même, Moulissa, je te dis, je fais tahajjud jusqu'à 4h30. Et 4h30, je prends mon Coran, je lis jusqu'à je vais namaz Fajr. Et je vais namaz Fajr, tel masjid, un petit quartier, un petit peu éloigné. Et je vais namaz, mais je viens pas en ville, je vais tel endroit. Je dis, peu importe, tu viens ici à droite, à gauche, Bait min Buyutillah. Je dis, et tu fais ça tous les jours? Il me dit, oui, tous les jours. Je dis, écoute, quitte à raccourcir le temps de tahajjud, le temps de lecture du Coran, mais fais-le tous les jours. Il m'a dit, oui, c'est bon, maintenant j'ai intégré. Il m'a dit, c'est pas que une fois de temps, on vit de faire plein de choses, on fait plein. Et après, une semaine après, Fajr aussi, il ne trouve plus la trace. Non. Il a dit, istikhama. Il m'a dit, non, là, c'est bon, alhamdulillah, ça fait partie de ma vie, et avec ça, je suis content. Il a dit, et quand j'ai fini mon Fajr, je rentre à la maison, je goûte, je vais au travail. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et quelle plus grande garantie de baraka? Quelle plus grande recette contre la crise? Vous pouvez faire succéder tous les ministres d'économie, celui qui est diplômé de Harvard, diplômé de l'ENA, de je sais pas, de la Sorbonne, ou je sais pas, l'autre endroit, personne ne pourra donner la solution de la baraka, de la bénédiction. La baraka, c'est ce musulman, ce croyant, qui lève les mains lorsqu'Allah Azza wa Jal descend au ciel du dunya et qui demande qui veut, qui a besoin, qui demande, qui veut être pardonné. Et que lui, ses doigts coïncident avec ces milliers de personnes qui ont eu tawfir de la part d'Allah de lever leurs mains et demander doigts à ce moment. Et qui va faire sa salatul fajr en congrégation, jama'a. Quelle plus grande garantie de baraka, de bénédiction. Et qu'ensuite, attention, pas qu'après il rentre son cas, il dort jusqu'à Zohar, non. Après, il va travailler. Travailler, obtenir son rizq, sa subsistance licite. Quelle plus grande garantie de baraka dans l'effort qu'il va faire. Wallah il a azim, je jure par Allah, qu'une personne peut gagner 1200 euros, 1300 euros par mois, et vivre heureux, épanoui, avec 5-6 enfants. Baraka, bénédiction d'Allah. Et quelqu'un d'autre qui, monsieur, madame, travaille, fonctionnaire, là, je ne sais pas quoi il fait, totalise 3500 euros, ne trouve pas le bout. Pas baraka, pas bénédiction. Ce n'est pas les chiffres. C'est pas le pesant d'or. Vous voyez que on s'éloigne, hein, mais on s'éloigne de le bon sens. Hein. D'accord ? Regardez comment que, subhanallah, dans l'islam, on ne pèse pas, on ne mesure pas. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez le hadith qu'on avait cité le Jum'a sur les sahaba, avec les sahaba, il a dit que n'insultez pas, ne portez pas atteinte à l'intégrité de mes compagnons. Parce que si l'un de vous, c'est-à-dire les générations après, donnait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud, Zahaba, en or, cela ne vaudrait pas une petite sadaqa, j'ai plus les termes en tête exactement, une petite sadaqa donnée par un de mes compagnons, en termes de valeur. Pour Allah, la valeur, c'est pas quantité, c'est pas quelque chose qui flash, qui pèse, qui est lourd, qui a du volume. C'est ce qui vient vraiment au fond du cœur. Ça, c'est les notions de baraka pour Allah Azza wa Jal. Donc, tu travailles, tu gagnes 7000 euros, si Allah n'a pas mis baraka, on ne verra pas la couleur. Il y aura des dettes, il y aura des imprévus, ou alors l'argent va partir. Je connais des gens qui agissent mal. Personne qui agit mal avec sa maman. Quelqu'un qui a les moyens. Blindé. Il agit mal avec sa maman. Il ne donne pas rien à sa maman. Sa maman mesquine, je connais. Sa maman, elle vit au jour le jour. Mal le cœur. Il est plein. Cette personne paie des sommes d'argent inimaginables. Baraka, ma fille, il n'y a pas. On ne respecte pas les liens de parenté. On ne donne pas les priorités à celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a donné à boire avec elle, celle qui a risqué sa vie en te donnant la vie, bi'idhnillah. Pas de reconnaissance. Au nom de quoi? Donc, pour revenir à ce qu'on disait, la baraka, c'est ça. C'est quelqu'un, donc, pour revenir à l'exemple de cette personne-là, alhamdulillah, ça a rempli mon cœur de joie. Puis je lui ai posé une deuxième question, madame et les enfants. M'a dit, alhamdulillah. M'a dit, même la petite fille, tout, elle fait namaz maintenant, c'est bien. J'ai dit, alhamdulillah, petite fille doit avoir, je sais pas, peut-être 10 ans maintenant. J'ai dit, alhamdulillah, ni'ma. J'ai dit, toute la famille? Oui, toute la famille. Ben, après, pas poser plus de questions. Mais, yubashar bil khair, ça montre, c'est bien. Quand quelqu'un, il est, mashallah, qu'ou anfusakum ahlikum nara, priorité, fait en sorte que tout le monde de la famille fait 5 salats. Je peux pas, moi, en tant que papa, je peux pas dormir si mon épouse n'a pas prié Isha. Tu la réveilles. Parce que là, tu peux la réveiller pour qu'elle fasse sa salat, même s'il va jouer aux deux coups. Mais on l'a fait la réveiller, il a fait son namaz. Parce que le jour de Qiyama, quand quelqu'un va dans le Jahannam, on ne peut pas dire, elle non, elle c'est mon madame, vous avez trompé, regarde mon barbe, ça c'est mon madame. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, j'étais qui moi de ce dunya? Ça c'est ma femme, du tout. Ibrahim a.s. voit son père dans le Jahannam. Nuh a.s. voit son fils dans le Jahannam. Lout a.s. voit sa femme dans le Jahannam. Younes, personne ne peut retirer quelqu'un sans l'ordre d'Allah. C'est maintenant, qu'ou anfusakum wa ahlikum, nara, protégez-vous et vos familles, vos proches d'un feu. Et on avait déjà dit, mais on le répète, c'est pour moi, c'est pour nous tous, c'est un rappel pour le croyant. Et quand Allah dit protégez vous et vos proches d'un feu, Allah ne s'arrête pas là, wa ahlikum nara, avec d'autres versets, non. Allah explique, wa quduha an-nas wal hijara. Vous savez, c'est quoi le combustible du feu? Les pierres et vous. An-nas, les êtres humains. C'est les êtres humains qui permettent à l'enfer d'être flambant, de briller, de brûler, d'être incandescent. Et Allah continue la description. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ عَلَيْهَا. En plus de décrire la nature et la puissance de l'enfer et le caractère, subhanallah, horrible, hein, on peut dire, parce que c'est les hommes qui brûlent l'enfer. Allah décrit qui c'est qui supervise. عَلَيْهَا مَلَائِكَ. Et là on revient à الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَ. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. Des anges qui n'ont, c'est pas la traduction exacte, aucune pitié, aucun amour de leur cœur. Savent pas c'est quoi la pitié, savent pas c'est quoi l'amour, ils savent pas rien. Ils ont été créés pour veiller à ce que les gens qui méritent le châtiment goûtent le châtiment. Qu'Allah protège. Avec toutes ces descriptions, يا أيها الذين آمنوا, celui qui a la foi ne comprend-il pas? Avec toutes ces descriptions, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Comment est-ce possible que si un médecin, il vous lit votre analyse de sang, vous dit, monsieur, vous avez taux de cholestérol, je ne connais pas les chiffres, tel taux. Votre diabète, tel taux. Vos plaquettes, c'est comme ça. Les globules blancs, c'est pas normal, il y a trop. Attention, diabète, cholestérol et pire encore. Vu le décalage de plaquettes, de globules, faites un scanner. Je crains que vous ayez une tumeur, vous avez un début de cancer. Il vous a dit, il vous a lu des chiffres. Les mêmes chiffres là. Je peux donner à mon enfant, il fait calcul d'addition, multiplication. Vous pouvez faire dire n'importe quoi ces chiffres. Lui, il vous a lu des chiffres, il vous a donné l'interprétation. Et en sortant du cabinet, vous ne pouvez même plus marcher. Vous avez la trouille. Les gens m'y tremblent. Madame Bujetra, pas où ? Il vous appelle les enfants, viens conduire, papa l'a saisissement. Parce que son analyse de sang n'est pas bon. L'angoisse, cap qu'après-midi. Parce qu'il vous a annoncé quelque chose. Peut-être qu'il ne sait pas. Il se trompe. Vous n'avez jamais vu un médecin se tromper ? Combien de médecins ils trompent ? Peut-être que quand il a expliqué l'hémoglobine, il était dans, ou il était parti faire la fête, et il ne connaît pas, il dit n'importe quoi. Bref, un être humain qui vous interprète des chiffres avancés par des êtres humains. Combien, je connais, enfin, on ne va pas rentrer dans des détails biologiques. J'ai un ami proche, fait une analyse de sang, un laboratoire. Résultat dangereux, maladie grave. Il refait une deuxième fois, le docteur dit, c'est pas possible. Refaites. Et pareil, même résultat, maladie grave. Il a dit que c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir ça à votre âge. Changez de laboratoire. Ça nie même tout ça. Partez à un autre laboratoire, vous n'avez rien, monsieur. Il allait rentrer d'un traitement de je ne sais pas quoi. Il a voulu en avoir le cœur net, changer de laboratoire, nickel. Depuis, il s'est appelé laboratoire aussi, mais des autres. Bref, être humain se trompe, oui ou non ? C'est des chiffres qu'il a fait calculer, il a mettre le sang, là, il a fait sec, il a mettre je ne sais pas quoi, pour gagner. Je ne sais pas, ça doit se passer comme ça, je pense, d'accord ? Et l'homme interprète. Il s'est trompé, il peut se tromper. Ce sont des chiffres. Mais on a iman, yakin dessus. Conviction, docteur a dit, je suis mort. Tu es bien, tu cours, tu sautes, mais non, je suis mort intérieurement. Tu meurs, c'est tu meurs. Sans faire de jeu de mots. D'accord ? Alors qu'Allah, Rabbul Izza, créateur des cieux, de la terre, créateur de l'univers, créateur du temps, de l'espace, de l'éternité, il vous dit, attention, ce feu-là, mes chers, être humain, c'est dangereux. C'est moi qui l'ai créé. Ce feu-là, j'ai mis les pieds des anges, pas pieds des anges, mais des anges terribles pour le surveiller. Faites attention. Protégez votre femme et vos enfants. Quelqu'un, il obtient, Allah protège, le tout, Inch'Allah. Un enfant, il a une analyse de sang comme ça. Il vous dit qu'il y a une tumeur. Comment est-ce que notre vie est détruite ? On aurait préféré mille fois que ça tombe sur nous, que ça tombe sur nos enfants. Oui ou non ? N'importe quel père de famille dirait oui. Mais là, il y a la mise en garde pour votre femme et vos enfants. Attention, ce Jannah. Comment est-ce qu'on peut rester dans Rafla, dans l'insouciance ? Comment est-ce qu'on peut permettre que dans la maison, une personne ne fait pas cela ? A'oudhu billah. Comment est-ce qu'on peut permettre que ma fille qui a 15 ans, elle ne s'habille pas correctement pour aller à l'école ? Combien de filles, elles viennent à la madrasa ? Quand on voit, quand elles arrivent de l'extérieur, il n'y a aucune différence entre leur manière de s'habiller et la manière des غير مؤمن, de ceux qui n'ont pas iman. Aucune différence. Le t-shirt, le collant, le je ne sais pas quoi. Même vêtement. Absence totale de haya. Absence totale de pudeur. Vous pensez que cette fille de 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle est responsable ? Pas responsable, elle. C'est moi qui suis responsable en tant que papa. C'est moi qui aura à répondre. Et si je l'ai laissé grandir avec ses mauvaises habitudes, elle ne va pas changer toute seule, sauf si Allah écrit la guidée pour elle, ou alors Allah a décidé qu'elle rencontre quelqu'un, un savant qui lui donne une explication à madrasa et qu'elle comprenne. Mais si elle continue dans, malheureusement, dans cette spirale, et qu'elle, quand elle devient adulte, elle s'habille à l'occidental sans se soucier de la pudeur, de la notion de aura, la notion de ce qu'une femme doit cacher, ses jambes, ses bras, ses avant-bras, sa nuque, son cou, ses cheveux, qui sait qui aura à répondre le jour des comptes ? Le père en premier et la maman, parce qu'ils n'auront pas donné une tarbiya, une éducation correcte aux enfants. Donc, mes chers frères, une responsabilité de tous les instants. C'est pas simple d'être père de famille, c'est pas simple d'être mari, c'est pas simple d'avoir des gens sous nos responsabilités, c'est pas simple d'être responsable de soi-même déjà. On a tellement envie, masti, comme dit, envie de faire des bêtises, on regarde à droite, à gauche, parfois on est bien, parfois on a envie de faire n'importe quoi, besoin de se contrôler en permanence, parce que Shaitan est toujours là. Shaitan, il est là, il surveille, comme votre ombre. Il voit une petite faiblesse, tac, il va rentrer, il va essayer de vous faire perdre du terrain, vous allez aimer d'Allah Azza wa Jal. On expliquait ça ou ça à Montreuil, je ne sais plus quel endroit, où la tanié dans un tafsir. Quand Shaitan arrive, qu'Allah nous pardonne tous, nous sommes tous pécheurs, on ne donne pas de leçons, on se fait mudakara. Quand Shaitan arrive à vous persuader que regarder une femme étrangère, regarder un regard passionnel, ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui font pire que ça, c'est que Shaitan a commencé à travailler votre dossier. C'est que Shaitan a commencé à travailler votre dossier et qu'il a l'intention, à long terme, de vous amener vers le vrai zina. Et il commence par le regard. Tandis que si quelqu'un a fait à regarder ce qu'il ne devait pas regarder et qu'il a immédiatement réalisé qu'il est en train de faire une bêtise et qu'il demande tawba à Allah Azza wa Jal en ayant conscience que ça c'est haram, yubashar bil khair. Là, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui a été induit en erreur, mais il a eu un retour de foi et Allah va être satisfait et va certainement lui pardonner. Mais celui qui se dit que non, c'est pas grave, on laisse, c'est que Shaitan a déjà commencé à travailler le dossier de cette personne pour l'amener. Il arrivera ou il arrivera, peut-être pas Iblis, mais en tout cas, il essaie de nous éloigner d'Allah, de nous pousser jour après jour. Donc, se surveiller soi-même, c'est un mujahada, un effort de tous les instants, et faire en sorte d'être proche de madame et des enfants pour qu'il reste dans le dîn, c'est la mission de chaque papa et de chaque père de famille. Mais bien sûr, pour arriver à une qualité d'écoute avec les enfants, il faut qu'il y ait une qualité d'échange. Je ne peux pas exiger que mes enfants m'écoutent si le seul discours qu'il y a entre moi et eux, c'est des cris, des insultes et des frustrations, des bousculades. Chaque fois que je vois mes enfants, ils crient, ils crient, permanence. Il y a des parents comme ça qui ne parlent pas, qui crient. Ils crient du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas d'amour. Si on ne donne pas d'amour, on ne donne pas du temps, on n'échange pas avec eux, on n'est pas complice de nos enfants, de leurs activités, de leur vie, dans ce qu'ils aiment faire, de leur centre d'intérêt, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de respect. On respecte quand on aime. Maintenant, si on respecte parce qu'on a peur, ça ne s'appelle pas du respect. Il n'y a que le jour où il bat les yeux, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il avait peur juste de l'oppression. Vous voyez, mes chers frères, c'était peut-être pas le but de l'intervention, mais la tarbiya, le fait d'être proche de sa famille, ça c'est un tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement important qu'on doit essayer de travailler au quotidien, améliorer le muhabba, relation. Comment, par exemple, si là je rentre après Isha, je me dis que madame, éteins la télé là, assez que ça, il faut namaz, il trappe, il jette là, il casse par bol là, canal satan, il tire, il dit, il faut namaz Isha, qu'est-ce qu'il va faire Isha? Le premier vase à fleurs ou le premier tefal, lui envoie un chou de tête. Demain vient Fajjal, il écrit tefal chou de front. C'est pas signe de prosternation, hein. C'est qu'il a un petit problème avec madame. Il écrit tefal ou alors une autre mante. Ça marche pas comme ça. Tandis que, si tous les jours je me sens proche, je fais des efforts, muhabba, je noue des liens avec mon épouse, d'accord? Un samedi soir, je dis madame, écoute, cuisine pas. Allons manger au restaurant. Bon, on a 12 enfants, les compliqués, hein. Bien d'accord. Mais essaye de trouver une solution. Dans un médicament, fait dans autres. Non, plaisant. Je dis quelqu'un, viens vers les autres. D'accord? Je dis madame, allons sortir. D'accord? Allons manger un restaurant. Halal, bien sûr. Fais-le une petite rose. Il y a des fois où on a un beau qui passe avec son. Si le moulin n'a jamais vu ça, il n'y a même pas son madame sortie. Un monsieur, il passe dans un restaurant avec des roses. Je ne sais pas combien il coûte, il ne m'a jamais acheté. D'accord? Mais voilà, il nous regarde. Offre une fleur, madame. Bref! Mais quand vous faites un geste comme ça, là, il y a un retour de muhabba. La femme se dit que mon mari m'aime. Et c'est là qu'on peut faire passer des discours. On peut faire passer un message, je veux dire. Là, c'est le moment, on peut dire qu'écoute, qu'est-ce que tu dis qu'on essaie de devenir meilleur? On aimerait devenir des gens admirables, aimés par notre Créateur. J'aimerais tellement que dans le Jannah, tu sois à côté de moi. Là, avec un dîner, chandelle ou pas chandelle, avec un petit bouquet fleur, avec un cadeau, touche le cœur. C'est comme ça qu'on travaille. C'est pas avec des cris, c'est pas avec de l'oppression, etc. D'accord? Donc il y a un travail à faire. Sur le plan spirituel, sur le plan muhabba. Et c'est ça qui fait la perfection de notre dîner aussi. Quand on fait des discours de préparation au mariage et tout, on insiste que Être marié, c'est un devoir religieux, puis c'est un devoir sentimental aussi. C'est bien que monsieur, madame, il lève, fait namaz, tahajjoud, fait machin ensemble, mais il faut aussi qu'ils passent du temps ensemble, il faut aussi qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait des échanges, et ainsi de suite. S'il n'y a que la religion, il n'y a pas d'amour, ça ne tient pas. Pas possible. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, avec des sentiments. Ce n'est pas le mot robot, je voulais dire. On n'est pas des malaïka, on est des êtres humains avec des sentiments. Et s'il n'y a que le sentiment, il n'y a pas de din, ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas barakah, il n'y aura pas l'obéissance d'Allah, il y a shaitan donc qui va venir. Bref, donc tout ça, ça se travaille. Et ce qui nous permet de revenir un petit peu sur notre sujet, c'est l'ange. Les anges qui suivaient le jahannam. Quand quelqu'un lit le tafsir de ce verset, il prend conscience, il a envie d'une seule chose, c'est de prendre sa femme, de prendre ses enfants, de les serrer dans ses bras et de dire que je suis là, je vais faire tout pour vous protéger. C'est comme si que vous êtes dans un endroit, il y a, je sais pas, il y a un Red Bull, comment on appelle ça? Un boule, comment ben chien bizarre là? Un pitbull, pas un Red Bull. Red Bull, il boit. Il y a un pitbull où il y a un gros chien qui fait peur. Ben, quoi vous faites? Tu quoi au premier? C'est pas normal. D'accord? Prends des enfants le plus petit, ou prends un bébé aux portes, l'autre aux portes, ou dis attends, on prend un bâton, un parapluie, ça fait en sorte que voilà, on éloigne, mais tout le monde en sécurité. Bref, ça c'est une image, hein, d'accord? Pareil, en tant que description de Jahannam, c'est comme si que on veut dire que non, je veux vous protéger, et comment je vous protège? C'est en vous permettant de revenir vers Allah, que nous tous, hein, nous devenons de pieux croyants. Donc on aimerait quand même terminer ce soir, Iman bil Malaika. Donc déjà, je voulais revenir là-dessus, sur la description des anges du Jahannam, on l'a fait d'une certaine façon, bi'idhnillah. Donc prendre conscience, quand on est conscient de ça, comment est-ce qu'on peut encore désobéir à Allah? Et c'est là qu'on voit le lien entre chaque pilier de la foi. Plus on connaît les anges, plus on connaît le rôle des anges, plus la grandeur d'Allah rentre dans les cœurs. Quand on connaît la puissance des malaïka, comme on avait vu Israfil, vous vous rappelez, l'ange qui souffle de la trompe et ainsi de suite, Malik al-Maut, l'ange de la mort, capable de prendre des millions d'âmes en une seconde, différentes régions géographiques, on comprend que Allah Akbar, celui qui lui a donné un tel pouvoir, comment il est grand, comment il est fort, comment il est supérieur, alors que tous ces malaïka-là, ils meurent. Le jour des comptes, ils sont détruits. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune forme de vie, il n'y a que Allah qui reste. Et ensuite, Allah redonne l'âme à la vie, pardon, à ses malaïka. Également, lorsque on prend conscience, on n'avait pas beaucoup développé, mais il y aura d'autres occasions, inshallah, à travers d'autres hadiths, lorsqu'on prend conscience de kiraman katibina ya'lamun ama taf'alun, ou des versets que subhanallah ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, que chaque parole qu'on prononce, en ce sens il y a des malaïka qui sont là, qui prennent note, qu'il y a des malaïka qui écrivent les actions bonnes comme mauvaises. Celui qui apprend, qui étudie, qui médite et qui connaît un petit peu les hadiths qui parlent des anges, qui inscrivent les actions, comment est-ce qu'il peut encore désobéir à Allah? Comment est-ce qu'il peut aller regarder quelque chose de haram, qu'il peut manger, quelque chose de haram? Comment est-ce qu'il peut prendre ses écouteurs, mettre sur ses oreilles et commencer à écouter telle chanson quand il sait que les anges font, quand tu appuies sur play, les anges aussi ils appuient sur play, ils commencent à écrire l'intégralité des péchés qu'on est en train de faire. Samedi dernier, on a passé au moins 45 minutes ou presque une heure à expliquer aux jeunes les méfaits de la musique. Et ils ont compris. J'ai vu de leurs yeux qu'ils avaient, réalisé. On a expliqué quels sont les khutwas, comment est-ce qu'on peut s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas dire à un jeune, écoute, jette tout, éteint la musique, c'est fini. Pas possible ça. Comment, peu à peu, on essaie de se détacher, etc., etc. Bref, quand on est conscient qu'il y a ce genre de malaïka, ce genre d'ange, ben, on prend conscience que les péchés, c'est grave. Je ne peux pas me permettre, tout comme je ne peux pas me permettre de ratir salatul fajr. Je ne peux pas me dire que demain c'est dimanche, je mets mon réveil pour 8h ou 9h. Je me lève et je vais acheter le pain, je bois mon café. Ah, wallah. Impossible, parce qu'on a pris conscience qu'il y a des anges qui inscrivent les actions bonnes comme mauvaises. Et puis, dernier point, c'était la description physique des anges. Mais ça, on avait déjà vu. Hein, on avait vu également la puissance des anges. Si Allah envoie des anges sur le dunya, ils peuvent tout érasser en une fraction de seconde. Dans quelle bataille Allah Azza wa Jal avait envoyé les malaïkas sur la terre? Qui connaît? La seule bataille où Allah avait envoyé les malaïkas, barakallahu fik, c'est Ghazwatu Badr. Ils venaient et ils ont terrassé l'ennemi. Après les autres batailles, il y a eu des batailles où les musulmans étaient en difficulté. Une bataille où les musulmans étaient en difficulté. Quelqu'un peut citer Uhud. Une autre bataille plus compliquée. Aussi compliquée, on va dire. Hunayn, oui, à l'Ahzab aussi, les coalisés. Hunayn, c'est des moments durs, ça. Le mois difficile. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas envoyé des malaïka? Qui peut me dire pourquoi? Hikmah, sagesse d'Allah. Allah, il savait exactement pourquoi à ce moment il envoie et à tel moment il n'envoie pas. Et pourquoi on insiste là-dessus, alors qu'on va décider des événements passés et tout, quand on analyse l'actualité, on analyse les faits, tout ce qui se passe, des musulmans torturés, des musulmans humiliés, des populations de décennies en décennies, ils sont chassés de leur terre, ils voient leur terre prise, volée, et que tout le monde est témoin et personne ne peut rétablir la justice. Il y a des fois, on se dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'Allah n'envoie pas son aide? Pourquoi est-ce qu'Allah n'envoie pas les anges de Badr? Qu'on comprenne qu'à d'autres occasions où les musulmans étaient dans des situations chaotiques, Allah n'a pas envoyé parce qu'il y a toujours une sagesse. Allah, il sait exactement quand ça nous doit venir et quand Allah éprouve les gens pour voir leur réaction, pour voir comment ils vont se débrouiller, comment ils vont s'en sortir, pour parfois mieux détruire les oppresseurs et mieux élever des opprimés. On peut se poser la question, lorsque il y avait un roi, Ashabul Ukhdud, Ashabul Ukhdud, tout le monde connaît, dans Sama'idat al-Buruj, qu'il avait creusé un fossé géant pour brûler les Ahlul Iman. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas envoyé les anges pour les protéger? Il y a deux jours de cela, j'ai vu un, je ne sais pas voir s'il y en a qui sont accros sur un Facebook, une vidéo sur Facebook, on montre en Afrique, ils avaient attrapé trois sorciers. Qui l'a vu? Ah, Tama, ou vive sur Facebook, voilà. Ils avaient attrapé trois sorciers. Et on montre comment le villageois, hein, en Afrique, Côte d'Ivoire apparemment, eux frappent, tellement, on sait que c'est des sorciers, mais bref, fait mal le cœur même. Puis ils les ont brûlés vivants. Et c'était filmé, hein. Frappé, il y avait une dame aussi, mesquine, hein. Frappé, poussé d'un fossé, ils ont mis des branches, allumé le feu. On voit quand le feu, hein, s'embrasait, il se levait tout de suite malgré les coups pour sortir. Et il lui donnait des coups de bâton pour ramener, piétiner. Bref, jusqu'à ce qu'il... Quand on voit ça, c'est choquant. Quel que soit ce qu'ils ont fait. Bref, c'était choquant. Et là, je me suis rappelé, Qutila Ashabul Ukhdud, c'était pire que ça. Ils avaient creusé un fossé gigantesque où on jetait hommes, femmes, enfants, bébés, vieillards, uniquement. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Pourquoi est-ce qu'ils se sont vengés? Pourquoi ils ont fait du mal? Uniquement parce qu'ils avaient iman en Allah. Ça ne s'appelle pas l'islamophobie, ça? Toujours existé. La haine de l'islam. D'accord? Et donc, quand on voit ce genre d'histoire relatée par le Coran, on peut se dire, mais Allah aurait pu envoyer des malaïka. Oui, Allah aurait pu envoyer des malaïka. Mais Allah a laissé cette épreuve aller jusqu'au bout. Et ceux qui ont fait du tort, quelle sera la destruction de l'Akhira? Châtiment exemplaire devant l'humanité. Et ceux qui ont été opprimés, shuhada indallah, shuhada, sont morts shahid, ils ont donné leur vie pour la ilaha illallah, la plus belle des récompenses. Le jour de Qiyamah, tout le monde va les envier. Vous voyez comment, quelle est la sagesse d'Allah? Mais on peut ne pas comprendre ça. Parce que nous réagissons comme des humains, avec des sentiments, avec une certaine logique qui est propre à l'homme. Mais Allah, dans sa sagesse, c'est un autre niveau. Allah, il connaît exactement. Donc, tout ce qu'on peut voir de le monde qui se passe n'arrivera jamais à la cheville de ce qui s'est passé avec Ashabul Ukhdud. Avec ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait expliqué aux sahaba une fois près de la Kaaba, que le sahaba du prophète d'Allah demande à Allah de l'aide. On est en train de souffrir à Makkah. Il a dit que ceux qui sont venus après vous, ils avaient iman en eux. Et on les torturait, on les enterrait vivant jusqu'à la tête, et on prenait des brosses avec des poils d'acier, on les sciait la tête jusqu'à ce que on voyait l'os. Malgré ça, ils restaient fermes de leur foi. Là, les sahaba, ils ont écouté, ils ont dit, ben, on va rester fermes de notre foi, on va faire preuve de patience, parce que ceux qui sont venus avant nous, ils ont eu plus d'épreuves. Eux aussi, ils auraient pu avoir l'aide d'Allah. Mais Allah va les élever de cette façon. Donc, plus on lit, plus on apprend, on comprend la hikmah d'Allah dans tout ce qui se passe. Et quand on arrive à comprendre la hikmah d'Allah dans la vie et dans la mort, mais dans les événements de tous les jours, maladies, problèmes, incidents ou disputes ou n'importe quel problème, on comprend un petit peu mieux les hikmahs, qu'il ne faut pas s'attacher aux choses, qu'il faut relativiser, être conscient qu'en finalité tout le monde retourne auprès d'Allah, que les biens c'est éphémère, que le plus important c'est qu'Allah nous accepte, c'est le Jannah, c'est pas le dunya et ainsi de suite. Vous voyez mes chers frères, si quelqu'un, il comprend sa religion d'une manière globale, il devient l'homme le plus heureux. Et pour devenir l'homme le plus heureux, vous savez qu'est-ce qu'il faut encore? Là, on saute des étapes. Développer la sixième branche de la foi. La foi, c'est le destin. Celui qui a, et ça, Inch'Allah, on le verra par la suite, on peut dire que ce soir, on a complété Iman bil Malaika. On va voir la semaine prochaine bil Kutub, bil Rusul. On peut faire les deux en une seule fois. Yom il Akhir, ça c'est long, en une ou deux fois. Inch'Allah, le destin. Celui qui a compris le destin, il devient le plus zen, le plus cool, l'homme le plus tranquille, qui a vraiment la sakina de son cœur, parce qu'il sait que tout vient d'Allah et tout émane de la décision d'Allah. Donc, Inch'Allah, on va continuer à développer ces arcanes de l'iman. Et avec ça, Inch'Allah, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder encore plus de iman, encore plus de foi. Tawfiqillah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah.